La semaine dernière, nous avons eu la joie avec Estelle d'aller regarder le spectacle Jésus de Nazareth à Jérusalem, qui a été écrit et composé par Pascal Obispo. C'était au Zénith de Dijon. Donc c'était un cadeau de la part de notre famille, un cadeau de Noël. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment magnifique. C'était vraiment un beau spectacle, musicalement, artistiquement. Et puis, moi, quand je vois que l'on essaie de représenter Jésus, sa vie, alors bien sûr, c'est toujours plus ou moins fidèle au texte, c'est toujours plus ou moins fidèle à... Oui, je parle un peu fort. Hein. C'est toujours plus ou moins fidèle à ce qui a dû se passer réellement, mais c'est toujours touchant, parce qu'on a une image, en fait, de comment ça a pu se passer. En tout cas, moi, à chaque fois, je vois un film de Jésus, quelque chose qui représente Jésus, ça me touche. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien. Je sais pas si vous voyez, mais dans le monde francophone, puis même au-delà, il y a plusieurs choses qui concernent Jésus en ce moment. Il y a ce spectacle, il y a un film qui sort en ce moment sur les écrans, Jésus l'enquête, hein, qui raconte l'histoire d'un journaliste qui était athée et qui, mais dont la femme était chrétienne et qui va faire une enquête comme un journaliste pour voir si vraiment Jésus est ressuscité. Je vous conseille d'aller le voir. Ben voilà, là je digresse, je reviens à ce spectacle, ou en tout cas je voulais du coup vous faire partager un petit peu de ce spectacle en vous projetant le clip, une partie du clip de la chanson phare du spectacle, donc la bonne nouvelle. Bon, bah, vous irez la voir sur YouTube. Bref, je pense plusieurs, vous avez dû l'entendre. Donc cette chanson qui dit « La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est Jésus. » Et pourtant, à l'approche de la célébration de Pâques, justement, quand on se replonge dans les textes des évangiles qui relatent la dernière Pâques que Jésus a vécue et comment il a été traité, ce que les hommes ont fait de lui, on peut se demander dans quelle mesure Jésus était une bonne nouvelle. Dans quelle mesure Jésus était reçu comme une bonne nouvelle. En tout cas, par certains, quand on lit, on peut se dire qu'il a été plutôt reçu comme une mauvaise nouvelle. Et je voudrais, c'est ce que nous voyons dans plusieurs textes, et je voudrais prendre en particulier celui qui parle du moment où Jésus a comparu devant le tribunal romain, devant la justice romaine. Parce qu'avant, il avait comparu devant le tribunal juif, l'assemblée juive qui s'appelle le Sanhédrin, emmenée par le grand prêtre Caïphe. Sauf que, et pour eux, Jésus avait fait des choses, avait dit des choses qui méritaient la mort. Mais ils ne pouvaient pas le mettre à mort parce qu'ils étaient sous la juridiction romaine. Donc du coup, il fallait qu'il passe devant la justice romaine. Et c'est pour cela qu'il va se retrouver devant le gouverneur romain, Pilate. Je commence là, donc ça se trouve au chapitre 18 de l'évangile de Jean. Et je commence la lecture au verset 28. Ça va être un texte qui va être assez long, c'est jusqu'au chapitre 19, le verset 16. Mais qu'on puisse se plonger dans la parole et se laisser toucher par ce que Dieu veut nous dire chacun au travers de cette parole. Jean 18, 28. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit: De quoi accusez-vous cet homme? Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Parce que Jésus, effectivement, avait dit qu'il allait être crucifié. Et cela, c'était la manière dont on exécutait un condamné dans le droit romain. Selon la loi juive, on précipitait plutôt le condamné à mort d'une falaise. Et à Nazareth, justement, ça ne s'est pas passé pour Jésus. Ça a failli. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et tes chefs, et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais, comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent, « Non pas lui, mais Barabbas !» Or Barabbas, qui signifie « fils du père », Barabbas était un brigand. Alors, Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal, à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Ils s'écrièrent alors, « à mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur, que César. » Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. C'est fort. « Je suis venu rendre témoignage à la vérité, » dit Jésus. Et quelque temps avant, il avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus vient rendre témoignage de lui-même devant les hommes. La vérité comparaît devant les hommes. La vérité est jugée devant les hommes. Les hommes jugent la vérité. Et en même temps, on peut se demander qui comparait devant qui. Les hommes se retrouvent face à la vérité. Les hommes comparaissent devant la vérité. Et c'est le titre que j'ai donné à ce message. L'homme face à la vérité. Et un des aspects forts qui témoignait que Jésus était la bonne nouvelle, c'est qu'il était vrai, intégralement vrai. Et on le voit encore dans ce texte. Il manifeste dans tous les évangiles et notamment dans ce texte que j'ai lu, on voit qu'il n'a aucun esprit de manipulation. Quand Pilate vient lui demander « Es-tu le roi des Juifs ?» et il pose la question d'une certaine manière pour voir si Jésus va affirmer qu'il est le roi des Juifs, va prétendre qu'il est le roi des Juifs, ce qui serait un motif pour le condamner. Jésus répond, mais tu le dis de toi-même ou tu l'as entendu dire ? Jésus est direct. Là où nous avons cette tendance, vous savez, à tordre les choses, à arranger la réalité à notre manière, à parler d'une certaine manière pour obtenir quelque chose chez l'autre, pour arriver à nos fins. Alors il y a des cadres où c'est normal, hein. Il y a des contextes où c'est normal. Un policier qui vient interroger quelqu'un, ben voilà, faut bien. Mais derrière cela, là-dedans, peut y avoir une attitude, et c'est ce que dénonce Jésus ici. C'est ce qu'il pointe du doigt chez Pilate, en tout cas. Il y a une attitude qui n'est pas franche. Il y a un esprit de manipulation. Jésus n'est pas non plus dans des enjeux de pouvoir. Mon royaume n'est pas d'ici-bas, dit-il à Pilate. Il est en train de dire, mais moi, je ne suis pas pris dans des enjeux de pouvoir comme vous pouvez l'être tous les hommes. Je ne suis pas corrompu par le pouvoir. On voit comment on peut s'accrocher, nous les hommes, au pouvoir, aussi petit soit-il, parce que ça nous donne de l'importance à nos yeux, parce que ça donne de l'importance, pour nous, ça nous donne de l'importance aux yeux des autres. Jésus n'était pas pris là-dedans. Il aurait pu aussi user du pouvoir que lui conférait le fait de se retrouver en victime. Parce qu'il est victime, là. Il aurait pu utiliser cette position de victime. Vous savez, ce que l'on fait quand on est en train de se plaindre. On est en train de se plaindre pour que l'autre nous plaigne. On est en train de se plaindre pour faire pression sur lui, pour obtenir quelque chose, pour avoir un regard sur soi, pour qu'il s'intéresse à nous, mais on le fait d'une manière où on fait pression. Il y a quelque chose de malsain. On exerce une sorte de pouvoir. Jésus aurait pu le faire, mais il ne le fait pas. Jésus est meurtri, il est fouetté, il est humilié, il est dans la douleur, mais il garde la tête haute. Il ne se résigne pas. Il reste droit. Il parle quand il veut. Il reste dans le silence quand il veut. Ce n'est personne qui lui dit de faire ce qu'il a à faire. Il décide. Il ne subit pas ce qu'il vit. Il reste entier, il reste intègre, il reste vrai. Et c'est ça qui touchait les gens. Tous ces hommes et ces femmes qui l'ont suivi. C'est parce que Jésus était vrai. Ses paroles, ses actes étaient toujours en accord avec ses paroles. Et jusque-là, on le voit encore. Tout ce qu'il disait, c'était des paroles vraies. Une vérité qui vient à l'intérieur de nous, nous nourrir. Et même des personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme étant le sauveur de l'humanité, comme étant leur sauveur, des personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme étant le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme. Quand on lit les paroles de Jésus dans l'Évangile, on ne peut pas se dire « c'est faux ». Dans ces paroles, on sent la vérité. La vérité, elle est là. Et ça nous touche. Ça touche n'importe qui. Et même Pilate a été touché. Pilate a vu que c'était un homme innocent. Pilate a vu qu'il y avait un mensonge qui se déroulait sous ses yeux. Il a vu que c'était un homme innocent, il a vu que c'était un homme vrai. Par trois fois, il dit « Je ne vois en lui aucun motif de le condamner. » Et pourtant, même s'il le voit, Pilate va fermer les yeux. Finalement, il va fermer les yeux sur l'injustice qu'il voit se dérouler devant lui. Il va fermer les yeux sur le mensonge de la part des autorités juives, chez qui, depuis le début, Jésus n'a cessé de pointer l'hypocrisie. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce tribunal. Il a pointé l'hypocrisie, le mensonge des hommes. Et même Pilate, qui fait tout pour relâcher Jésus, finalement, il y a une limite qu'il ne franchit pas. Il ne va pas jusqu'à défier l'autorité de César, qui lui a dit « Mais il faut que la province d'Israël reste dans la paix. Je ne veux pas une émeute, je ne veux pas qu'il y ait la révolte, je ne veux pas qu'il y ait du sang qui coule. Je ne veux pas qu'il y ait une insurrection. » Parce que c'était vraiment sous tension. La moindre étincelle pouvait faire exploser la région. Et personne ne le voulait. Et quelque part, ça c'est louable de ne pas vouloir la violence et le sang qui coule, bien sûr. Mais derrière, il y avait d'autres motivations qui sont plus sombres, qui sont plus inavouables, qui sont plus ténébreuses. On ne voulait pas perdre sa place. On ne voulait pas perdre son autorité. On ne voulait pas perdre les avantages que cette place nous conférait. C'était du moins ce qui se passait pour les autorités, et en particulier pour Pilate. On voulait sauver sa peau. On voulait sauver sa peau. Et pour sauver sa peau, eh bien, on ment. Pour sauver sa peau, on participe à un mensonge. On devient soi-même menteur. Et c'est ce que fait Pilate. Et on le fait tous. Nous le faisons tous. Chez nous tous, il y a cette tendance. Il y a cette tendance à vouloir nous sauver nous-mêmes. À sauver notre peau, à vouloir sauver notre réputation. À vouloir sauver notre image. L'importance que nous avons à nos propres yeux et que nous croyons avoir aux yeux des autres. Ce que nous pensons nous donne de l'importance aux yeux des autres. Sauver nos prérogatives, sauver nos privilèges, notre confort, sauver nos sécurités, sauver nos écarts par rapport à la parole de Dieu. Ben moi, j'attends qu'il m'ait demandé pardon avant de lui pardonner. Sauver nos écarts par rapport à la parole de Dieu. Et comme tous, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est ce que je fais encore, même après avoir donné ma vie à Jésus, parce que ma nature est imprégnée de cela. Ma nature est imprégnée de cela. La chair essaie toujours de se manifester. Et même si j'ai pu avancer par ailleurs, et même si je suis rempli de Jésus, il y a toujours cette nature qui est là. Il y a toujours cette tendance qui est là. Et bien sûr, c'est un mensonge qui vient, ça vient se mêler à nos blessures, ça vient se mêler au dysfonctionnement qui découle de la manière de ce qu'on a fait, qui découle de la manière dont on a été blessé. Mais ça reste un mensonge. Ça reste un mensonge. Ça reste quelque chose où on essaye de sauver soi-même. Et pour vous donner l'exemple de moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai réalisé dernièrement, à la lumière de la parole. Moi, je me suis construit en partie avec du mensonge, comme tous. Ma vie a commencé dans beaucoup de tensions. Mon père est entré en dépression très peu de temps après que je sois né. Et à la maison, c'était très tendu. Il était dans des angoisses profondes, des insécurités profondes, jusqu'à souvent perdre le contrôle de lui-même. Jusque même être dans une brutalité. Et moi, je me suis retrouvé tout petit dans cette atmosphère et je me suis construit à partir de cela, à finalement tout le temps essayer de rassurer mon père, de rassurer mes parents, de rassurer le système, de rassurer la famille, de rassurer tout le monde et tout le temps. Et ma vie d'adulte, je l'ai construit comme ça. Et cela, c'est impossible de faire ça. C'est impossible de rassurer tout le monde tout le temps. Il faut être parfait, alors vous cherchez à être parfait. Vous cherchez à être parfait, vous n'y arrivez pas. Alors c'est l'angoisse. Et vous ne dormez pas, c'est les insomnies. Alors vous... Et vous aussi, vous mettez la pression et vous mettez la pression aux autres, à vos proches en particulier. Et c'est des choses qui se déroulent sur des années. Et ça, je savais que je fonctionnais comme ça. Je le savais plus ou moins consciemment, mais malgré tout, je continuais. Parce que j'avais jamais appris à fonctionner autrement. J'avais appris à ne pas être moi-même. J'avais appris à ne pas exprimer mes désirs. J'avais appris à ne pas donner mon avis. Parce que sinon, c'était risqué que mon père se mette en boule. J'avais appris à tout le temps surpasser mes limites. Parce qu'il faut absolument rassurer le système. Et c'est ce qui faisait que je partais dans une activité continuelle, tout le temps sans pouvoir m'arrêter. Et je ne pouvais pas faire autrement, même si j'en avais conscience, parce qu'il y avait des mensonges qui venaient verrouiller tout cela. Vous savez, c'est quoi les mensonges ? Les mensonges, en fait, ce sont les bracelets avec les chaînes qui vous accrochent à ce système dans lequel vous êtes. Vous essayez de régler ces dysfonctionnements par vous-même. C'est ça, les mensonges. Ce sont ces chaînes. Et moi, les mensonges, c'était... Bah, tu dois être fort. Tu dois être fort. Tu ne dois pas montrer tes faiblesses. Tu ne dois pas accepter tes faiblesses. Et à des moments, tu ne dois pas accepter de l'aide. Tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire tout seul. Parce que sinon, tu es faible. Et si tu es faible, tu ne vas pas rassurer les autres. Si tu es faible, ton père va se mettre en boule. Si tu es faible, le couple de tes parents va être en danger. Et tu ne dois pas être toi-même. Tu ne dois pas être toi-même. Tu ne dois pas exprimer tes désirs. Parce que sinon, tu mets en danger le système. Sinon, tu ne rassures pas. Et tout ça, moi, je l'ai cru. Je l'ai cru. Et j'ai fonctionné avec cela. Parce que si j'écoutais pas cela, ça va aller mal. Et sinon, je vais être un mauvais pasteur. Et sinon, l'église, ça ne va pas aller bien. Ça ne va pas fonctionner comme il faut. Vous voyez, tout ce dans quoi ça peut nous emmener. Et quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos blessures, on fait tout cela. On fait tout ça. On est tous liés au mensonge. Nous nous construisons tous avec le mensonge. Qui viennent nous tenir en esclavage sur des choses comme ça de notre vie. La Bible dit, tous les hommes sont menteurs. Tous les hommes sont menteurs. Nous avons tous cette tendance à nous sauver nous-mêmes, tous cette tendance à vouloir régler nous-mêmes, nos dysfonctionnements ou ce qui dysfonctionne chez les autres. Et pourquoi on fait cela ? Pourquoi on verrouille les choses avec ces mensonges ? Pourquoi on écoute ces mensonges ? Parce qu'on a peur de souffrir. Parce qu'on a peur d'avoir mal. De nouveau. Moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, mon père n'est pas rassurable. Il n'était pas rassurable. Et j'essayais de rassurer quelqu'un qui ne pouvait pas être rassuré. Vous voyez, c'est le truc. Et vous continuez comme ça ? pendant des années, des années, des années. Et quand il a fallu que j'accepte, mais ouais, je faisais plus que ma part. Ça a été compliqué de me dire cela. Enfin, voilà, ça m'a amené de la... C'était douloureux. C'était douloureux de le réaliser et c'était douloureux de l'accepter. L'adage populaire dit « il n'y a que la vérité qui blesse ». Il n'y a que la vérité qui blesse. Effectivement, la vérité, ça blesse. Ça fait mal de l'accepter. On ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on s'accroche plus ou moins inconsciemment à ces mensonges. On ne veut pas avoir de nouveau mal. Mais quelqu'un d'autre a dit « si la vérité blesse, le mensonge tue ». Effectivement, c'est au prix de ma propre vie. Parce que si je continuais dans ce système-là, je me détruis. Et je détruis ceux que j'aime. Je leur mets une pression. C'est hyper malsain, finalement. Au bout du compte, c'est la mort. C'est au prix de ma propre vie, de celle des autres, que je reste dans le mensonge. Et quand Pilate amène de nouveau Jésus devant les autorités juives, devant les juifs, et qu'il dit « voici l'homme », c'est quel homme qui se présente ? C'est un homme qui est meurtri. C'est un homme qui est sanguinolent. C'est un homme dont la chair a été déchirée. Parce que les fouets romains, ce n'étaient pas des simples lanières de cuir. Il y avait des morceaux, des éclats de métaux qui vous déchiraient la chair. Et Jésus avait la chair déchirée. Il avait le front qui perlait de sang. Le sang coulait parce qu'il y avait la couronne d'épines qui était plantée dans son front. Il était humilié avec ce manteau pourpre qu'il singeait comme un roi. Et c'est cet homme qui se présente devant les autorités. Voici l'homme. Voici l'homme. Et ça, c'est aussi Dieu qui nous dit, voici l'homme. Et voici ce que vous en faites. Voici ce que vous en faites quand vous restez dans vos mensonges. Voici ce que vous faites de votre humanité et de l'humanité des autres. Chaque mensonge dans lequel vous restez, c'est un coup de fouet sur cet homme. Voici ce que vous faites de votre humanité qui est appelée à être vraie. Voici ce que vous faites de la vérité. Voici ce que vous faites de la vérité qui est Jésus. Vous la maltraitez. Vous la condamnez à mort. Vous la tuez. Il n'y a pas de place pour la vérité. S'il y a du mensonge, il n'y a pas de place pour la vérité. C'est au prix de la vérité que nous croyons nous sauver nous-mêmes. Pour finalement nous détruire et détruire ceux qui nous sont proches et nous tous. Nos prochains. Et si c'est ça notre choix, si on refuse de laisser la vérité éclairer nos ténèbres, nos mensonges, les choses dans lesquelles on se voile la face, effectivement, Jésus est une mauvaise nouvelle. Si on refuse d'être blessé, si on se dit que dire la vérité, bah ça va nous faire mal, alors on ne préfère pas, alors Jésus est une mauvaise nouvelle. Mais Jésus dit dans ce texte, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Amen. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » et je peux écouter la voix de Jésus. Il est l'issue. Sa voix est l'issue. Ce qu'il vient dire, ses paroles, qui il est. Il est la vérité. Il est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Il est la solution à ce qui essaie de m'enfermer dans ces fonctionnements qui conduisent à la mort. Je peux, ce matin, écouter sa voix et décider de le suivre. Écoutez encore sa voix, écoutez plus sa voix et décider de le suivre. Écoutez sa voix pour la première fois, si jamais tu ne connais pas Jésus. Écoutez de nouveau sa voix, si jamais tu le connais. Écoutez encore plus sa voix. Tu peux accueillir la vérité et être affranchi du mensonge, parce que la vérité libère. La vérité libère. La vérité libère. Et la vérité qui libère, c'est pas une bonne philosophie. La vérité qui libère, c'est pas une bonne manière de vivre, c'est pas une bonne attitude. C'est pas un bon message. Jésus est pas venu donner un bon message, délivrer un bon message. Il est venu se donner lui-même. La vérité qui libère, c'est une personne. C'est une personne qui vient vivre en moi. La vérité qui libère, c'est une personne qui m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime et c'est pour ça que je peux être libéré. Jésus m'aime, alors je peux lui confier ce qui me fait peur. Je peux lui confier, lui dire, lâcher les craintes qui me retiennent. Parce qu'il m'aime, il n'est pas en train de me juger, de me condamner. Il est en train de juger, de condamner ce avec quoi je collabore. Je peux lâcher mes craintes et je peux reconnaître et lâcher ces mensonges qui me tiennent en esclavage et qui veulent me conduire à la mort. Parce que dans ces mensonges, bien sûr, il y a notre fonctionnement humain, il y a qui est corrompu, il y a la chair, mais il y a aussi tous les ténèbres qui sont derrière. Il y a toutes les puissances, il y a tous les esprits mauvais qui sont derrière. Mais ça ne nous dédouane pas de notre responsabilité. Est-ce que je suis prêt à me laisser blesser? Est-ce que je suis prêt à me laisser blesser, à laisser la lumière éclairer mes ténèbres, à laisser la vérité dénoncer le mensonge? Même si ça doit faire mal, même si ça doit être douloureux. Et là, Jésus te dit, Dieu nous dit à tous, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est pour la vie, c'est pour la vie, c'est pour vivre. Pour vivre. C'est pour vivre et c'est pour s'aimer. C'est pour aimer vraiment. Pour aimer en vérité. C'est pour ça qu'il s'agit d'être vrai. C'est pour pouvoir vivre cette finalité à laquelle Jésus nous commande. Aimez-vous les uns les autres. On ne peut pas s'aimer les uns les autres si on n'est pas vrai. C'est si on est vrai. C'est si on est vrai qu'on peut vraiment s'aimer. C'est si on est vrai que cette parole, nous pouvons l'accomplir. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça, c'est à cela que conduit la vérité. On va prier. Nous allons prier. Juste laisser le Seigneur continuer de nous toucher, continuer de nous révéler. Seigneur, c'est ton esprit qui vient nous toucher. C'est ton esprit qui vient nous révéler ce qu'il y a de faux en nous, ce qu'il y a de mortel en nous, ce qu'il y a de mortel en nous pour les autres, ce qui nous empêche d'être vrais, vraiment, ce qui nous empêche de nous aimer, d'aimer, ce qui m'empêche de m'aimer moi-même, ce qui m'empêche d'aimer l'autre, ce qui me fait être dans le jugement, dans la condamnation. Seigneur, tu sais toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, maintenant, que la lumière soit faite sur toutes ces choses qui nous tiennent en esclavage. Que la lumière soit faite sur ce qui te tient en esclavage. Tu le sais. Tu le sais. Et que tu puisses laisser maintenant la lumière du Saint-Esprit t'éclairer. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, lui qui est la vérité, qui veut te remplir de lui, et tu vois tout ce qui a été faux dans ta vie, tu puisses lâcher ça maintenant. Tu puisses l'accueillir, lui. L'accueillir en tant que ton sauveur, qui peut lui seul te sauver des mauvais pas, du chemin qui te conduisait à la mort, qui te conduit à la mort. Et tu peux l'accueillir comme ton Seigneur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et il t'aime. Que chacun, vraiment, là, nous puissions l'accueillir, nous tous qui avons déjà reçu Jésus dans notre vie. Qu'on puisse accueillir sa présence encore plus profondément dans nos cœurs. Qu'on laisse prendre toute la place. Qu'on enlève les mensonges qui prennent la place pour que ça laisse place à la vérité, pour que ça laisse place à Jésus, afin que je sois dans la paix. Afin que je sois dans la joie. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour ce que tu vas faire pendant cette sainte scène. Nous allons prendre ton corps, prendre ce qui représente ton corps, prendre ce qui représente ton sang. Dans le nom de Jésus, je bénis, je sanctifie ce pain qui représente ton corps, ce jus de raisin qui représente ton sang. Je te remercie, Seigneur, parce que tu viens en nous. Je vous parlais du spectacle d'Obispo en début de prédication. Et il y a cette chanson qu'il a composée qui s'appelle « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres, c'est la finalité du fait d'être vrai. C'est pour ça qu'on veut être vrai. Et pendant cette sainte scène, on va passer cette chanson, qu'on puisse vraiment l'écouter et voilà, laisser au travers de cette chanson aussi, laisser le Seigneur agir. Vous allez entendre dans cette chanson, au début, il y a des bruits, des bruits de foule. En fait, on va pas passer l'image, juste le son. Il y a des bruits de foule et on entend des émeutes. En fait, c'est les soldats romains qui arrivent pour réprimer ou pour tuer les juifs qui se tiennent sur une place et tout le monde fuit. Il y a des personnes qui tombent, il y a des personnes qui sont tuées. Et puis juste après, on voit Jésus qui est avec ses disciples au moment du dernier repas. Et là, voilà, dans le clip, il se met à chanter. Et que vous ne soyez pas surpris, à un moment, on entend une femme. C'est Marie de Magdala. C'est pas dans le texte, hein. Et là, voilà, elle est dans la chanson. Mais Marie de Magdala, S'il y a quelqu'un qui sait bien ce que c'est qu'avoir été délivré, affranchi par la vérité, c'est elle.